France Inter. Je ne crois plus au ciel et je me jette à l'eau. C'est le dernier vers d'un de vos poèmes, Jacques Weber, l'un des textes que vous incarnez sur scène entouré de deux musiciens, un harmoniciste et un accordéoniste. Vous dites aussi Raymond Devos, Tchekhov ou Frida Kahlo. L'idée est d'associer littérature, musique classique et rock'n'roll. Dans le même temps, vous publiez un livre dont le titre s'inspire d'une chanson de Louis Chédid. On ne dit jamais assez aux gens qu'on les aime. Vous écrivez sur celles et ceux qui ont façonné votre vie d'homme et d'artiste. Votre frère, Catherine Deneuve, une certaine Marie, ou la cinéaste Emmanuelle Berco qui vous a dirigé pour la série En Thérapie. Vous parlez d'eux et c'est votre portrait qui se dessine. Celle d'un honnête homme dont vous n'esquivez pas les défauts. Bonjour Jacques Weber.
Bonjour.
Et bienvenue tout le monde, c'est Totémique.
Totémique. Rebecca Manzoni sur France Inter.
Dans votre univers, il y a Arthur Rimbaud, Marguerite Duras, Victor Hugo,
et puis...
Johnny.
Ouais. J'entends.
Gabriel. Tu brûles mon esprit, ton amour étrange, ma vie. Et l'enfer devient comme un espoir, car dans tes mains je meurs chaque soir. Je veux partager autre chose que l'amour dans ton lit.
Hey.
Que entendre la vie et ne plus m'essouffler sous tes cris.
Attention.
Oh, fini, fini pour moi.
Tougoudou, tougoudou. Alors, je voulais du Johnny. Parce que c'est en assistant à l'un de ses concerts que vous découvrez son homme à l'harmonica, c'est-à-dire Greg Zlap. Greg Zlap, avec qui vous êtes sur scène, et avec Pascal Conté, accordéoniste. Et à votre sujet, Greg Zlap dit « Jacques nous avoue qu'il rêverait de voir le public d'un théâtre se lever comme dans un concert de rock ».
Oui, c'est tout à fait vrai. Alors c'est un rêve impossible, parce que c'est depuis 50 ans que je fais ça, j'ai rarement vu ça, et j'ai toujours constaté que la musique embarquait plus facilement. C'est pas qu'elle est moins exigeante, c'est que le rapport qui s'inscrit ne s'inscrit pas sur le sens, sur les mots, sur le monologue ou le dialogue, mais sur une impression musicale. Enfin, et la musique exprime l'inexprimable, comme c'est Schumann, je crois, qui disait ça. Et je pense que c'est peut-être cet inexprimable, cette chose purement sensuelle qui fait que les gens peuvent se libèrent physiquement pour hurler bravo. Moi, Johnny, je suis un fan absolu parce que c'est sur scène. D'une part, j'ai eu la chance de le rencontrer par mon ami Nathalie Baye parce qu'on était au conservatoire ensemble. Et c'était un homme d'une gentillesse et d'une générosité absolue. Totalement ouvert, totalement intelligent, contrairement à la légende qu'on a fait autour de lui, accueil et tout. Et puis sur scène, c'était un monstre. Et moi, ça fait partie des gens qui m'inspirent avant de jouer. Je me mets du Johnny Hallyday ou du Brel parce que je trouve qu'il y a quelque chose d'organique chez ces gens. Il n'y a pas la tête d'un côté, le corps de l'autre. Tout est réuni et ça, boum, ça dégage, comme on dit même.
Alors, il peut vous inspirer, il vous booste d'une certaine façon avant d'entrer sur scène, mais est-ce que les rockstars comme ça pourraient vous inspirer une gestuelle sur scène, ou pas ?
Je sais pas, mais ce que je sais, c'est que moi, j'arrive pas à dissocier du tout le corps et la tête. Il y a une tradition française un peu qui est le Pierrot gourmand, vous savez. Enfin, moi, j'appelle ça Pierrot gourmand. En fait, c'est le Pierrot lunaire, mais le Pierrot gourmand avec les sucettes qui est dans la boulangerie. Et je me souviens que ça m'avait frappé. Il y a une collerette qui sépare la tête avec le petit bonnet noir et une espèce de grand costume fantomatique. Et très souvent, j'ai remarqué pas mal, surtout à mon époque, de moins en moins maintenant, mais les acteurs abandonnaient le corps et ils travaillaient surtout avec la tête, quoi. Et alors même que ce qui est de très beau, c'est que le corps donne le corps aux mots, le sang et la chair aux mots, c'est notre boulot, c'est notre métier. Et même au-delà même de toutes ces théories dont il faut parfois s'éloigner, l'incarner, le désincarner, faut être... Tout ça sont... Words sont des mots. Il y a un engagement physique. Le théâtre est un acte et un art physique.
Au point que parfois, le corps vous lâche. À un moment de votre carrière, un moment très important, Jacques Weber, vous avez perdu votre voix.
Oui, je crois que c'était pas un hasard du tout. Alors après, il faut appeler tous les psy, psycha, psycho, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Et j'ai toujours pas trouvé la réponse. Mais justement, le fait d'accepter de ne pas trouver la réponse, c'est déjà une forme de réponse en soi. Voilà, de pas chercher trop à savoir pourquoi. Mais ce qui est vrai, c'est qu'à un moment donné, ma voix s'est refusée. C'est-à-dire que quelque chose en moi se refusait peut-être de continuer de mentir ou de continuer, comment dirais-je, un rapport dans mon métier qui n'était pas peut-être le rapport juste.
Continuer peut-être de mentir?
Oui, parce que vous savez, ce qui est très beau dans la, il y a une phrase de Coltès qui est très belle, que je trouve très belle, c'est que je retourne toujours au théâtre, cet endroit où tout est faux pour être vrai. Ce qui est d'ailleurs tout à fait intéressant de nos jours, puisque comme vous le savez, notre monde est de facto vrai et n'arrête pas de produire du faux. Donc c'est plutôt intéressant ce renversement.
Alors on a parlé chansons et j'aimerais qu'on parle écriture aussi, puisque comme je le disais au tout début de cette émission, vous écrivez des poèmes et vous en dites un dans ce spectacle Weber à vif. Et alors qu'il a beaucoup été question d'éducation catholique dans la demi-heure chez Sonia de Villers avec Frédéric Bédé, il est aussi question d'éducation catholique avec vous, puisque ce poème il s'intitule « Le ciel est à l'eau ».
Oui, oui, il en dit long. J'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai que je le mets à l'eau tout de suite.
Mais
non,
oui.
Alors, d'une façon très très claire, j'aime le ciel, j'aime son mystère, j'aime le grand questionnement qu'il m'offre tous les matins. Mais par contre, je déteste toute forme de religion, quelle qu'elle soit. Alors, c'est vrai que j'en ai pâti, je l'ai raconté. J'ai eu une éducation religieuse extrêmement pesante. J'ai été chez les cœurs vaillants avec des curés plus ou moins pédophiles. Tout ça, c'est vrai, ça a existé. Pas plus que moi, d'ailleurs.
Oui, mais, parce que.
Mais voilà. Et ce que j'ai pu constater, c'est qu'étant enfant, je ne me rendais pas compte, puisque d'après mes parents, ce fameux curé en question, c'était Dieu. C'était le représentant de Dieu. Donc il pouvait faire ce qu'il voulait.
Pour resituer, il y a dans ce livre que vous publiez, on ne dit jamais assez aux gens qu'on les aime. Dans les premières pages, vous racontez donc cette enfance et cette éducation catholique, et vous racontez un abus.
Oui. Alors, je n'ai pas été abusé au sens intégral du terme, si je peux m'exprimer ainsi, mais tous les enfants de cette colonie étaient confessés, la tête sur les genoux, au milieu de la soutane, dans l'entrecuisse, la soutane entrouverte, et l'acte de contrition, c'était, ils nous mordiguaient l'oreille, en nous disant, tu diras des paternostères. Et ils mordiguaient l'oreille, ils la léchaient plus ou moins. Bon, et ben, quand nous, on vivait ça, on trouvait ça totalement légitime, et c'est en lisant un livre d'un garçon qui faisait avec moi la colonie de vacances, qui est un très bon auteur et journaliste de Libération, Jean-Baptiste Arand, que d'un seul coup, j'ai vu qu'il racontait ça, qu'il disait, mais oui, il s'agissait bien d'un pédophile, il s'agissait bien, il y avait une organisation pédophile à l'intérieur du système des cœurs vaillants, c'était de la rue Roger Bacon, je me souviens, voilà.
Alors dans ce livre, il y a évidemment des souvenirs d'enfance, et ce qui en compose l'essentiel, ce sont évidemment les gens qui comptent pour vous, des rencontres, des artistes, des connus, des inconnus, des animaux aussi, et vers la fin du livre, vous évoquez votre rencontre avec Emmanuel Berco, qui vous a dirigé pour la série En Thérapie, où vous incarnez ce chef d'entreprise qui s'appelle Alain Abgral. Et j'aimerais lire un passage où vous évoquez votre travail avec Emmanuel Berco. Donc, on est sur le plateau de tournage, et elle vous dit « Jacques, souvent tu alternes une position courbée en avant et un balancement en arrière imposant. » Elle a vous précisé « Son rire jaillit comme une fusée de fête foraine. » Ce balancement est la clé de voûte de chaque épisode et de notre histoire. Et un peu plus loin, elle vous dit « Non, pas ta grosse voix, c'est ta voix de théâtre. Enfin, ta voix est légère dans la vie », elle ajoute effrontée, « sauf quand tu n'es pas à l'aise. »
Bah, elle avait tout dit. Elle avait tout dit, et peut-être que cette voix qui s'est retirée dans Cyrano, c'est que elle en avait peut-être assez d'être grossie, exagérément et faussement. Je pense que ce qui m'arrive, parce que la rencontre avec Emmanuel vient à point nommé, elle vient dans le troisième temps de mon existence, si je peux m'exprimer ainsi. Et c'est vrai que, en ce moment, je découvre avec des gens aussi magnifiques qu'Emmanuel, que finalement, ce qu'on m'avait dit dans les fondamentaux de mon métier, au tout début, c'est-à-dire jouer les mains en bas, comme on dit, c'est-à-dire dans l'absence totale de vanité, être, on ne peut plus être sur scène, être soi ici et maintenant. Tout ça s'avère être la vérité absolue. Alors c'est pas facile. Ce dont je me rends compte aussi, c'est pour ça que j'ai de plus en plus peur et que je déteste de plus en plus le 8h25 pour jouer à 8h30, c'est le fait que je sais que ne serait-ce qu'être bien est très difficile. Pourquoi ? Parce que ce être bien renvoie à être soi. Mais être soi, c'est très très dur dans la vie. Et la voix ne ment jamais. Le regard peut mentir. Une voix, son grain, sa place, dit exactement où situe l'individu. Et donc, elle avait tapé, mais pile, là où il fallait taper. Regardez l'équilibre majestueux, sensuel, érotique, féminin de Depardieu, entre la charpente très masculine de son articulation et la souplesse de sa voix. Et ben, c'est tout Depardieu est dit dans sa voix. C'est hermaphrodite, quoi.
Alors la voix, le corps, là Emmanuel Berco soulignait dans votre jeu, puisque dans thérapie évidemment vous êtes assis sur le canapé du psy face à Dayan, incarné par Frédéric Pierrot, et elle parle donc de ce moment où vous êtes courbé et où ensuite vous vous balancez, vous vous rejetez.
Engagement et retirement, et c'est ça. Vous savez, il y avait une phrase qui m'avait beaucoup interloqué de Monterland. Je n'ai soif que d'un immense retirement, avec cette féminine retirement, comme ça, cet allongement des choses. Et ça, moi, j'ai toujours été partagé entre le retrait, le silence, une timidité quasiment maladive, qu'on n'imagine pas chez moi, parce que j'ai l'air comme ça d'un gros balou, de balou, on m'appelle balou parfois. Et puis de l'autre côté, quelque chose totalement engagé, même parfois trop. Même, je le sais, parfois, mon jeu est trop, trop expressif ou trop généreux. J'ai trop envie, comme ça, j'ai trop envie d'être rock'n'roll, en fait, voilà. Donc, faut que je trouve l'équilibre entre Duras et Johnny Hallyday, voilà, c'est ça.
Oui, mais vous avez trop envie d'être rock'n'roll parce que c'est comme ça qu'ont été marqués vos débuts. C'est-à-dire que vous, quand même, votre mentor, ça a été un comédien qui s'appelait Pierre Brasseur. Oui. Donc, quand on fréquente un homme comme ça, dont vous pouvez parler, dans quelle mesure était-il démesuré ?
Mais ce que j'adorais chez Pierre Brasseur, ce qu'on retrouve un peu chez Depardieu, c'est qu'ils sont démesurés en tout. C'est-à-dire que ce sont des gens curieux du bien comme du mal. Ils n'ont pas de position morale par rapport au monde. La position morale est toujours dangereuse. Elle est toujours sectaire. Alors, ils ont une position, le monde est comme ça. Le monde est beau, ignoble, affreux, merveilleux. Et ils vont chercher. Ils sont curieux du mal comme du bien. Et c'est pour ça qu'il y a parfois des rencontres qui peuvent choquer chez Depardieu, mais chez Brasseur aussi. Il y avait des choses très paradoxales chez cet homme. Mais toujours, j'ai senti chez lui une démesure, une exaspération du nature, de la simplicité, de la quotidienneté. Exaspération de la quotidienneté. C'est ça que j'aimais beaucoup. Et c'est ça qui est aussi dangereux dans le jeu. Parce qu'il y a des fois où il y a très grand intérêt à être beaucoup plus simple et beaucoup plus calme.
Voilà. Alors qu'au départ, c'est précisément cette démesure qui vous a fasciné.
Oui, tout à fait.
Dans Ne dis jamais assez aux gens qu'on les aime, il y a donc des connus et des inconnus. Et j'aimerais que vous nous parliez d'Annette.
Ah, ben, je vous remercie beaucoup. Annette, ça a été le grand amour de ma vie de tout jeune homme. J'avais 16-17 ans. J'ai eu la sensation de voir pour la première fois la beauté, quoi. D'abord, je trouve que c'est de la femme que parle la beauté, d'une façon générale. Bon, c'est comme ça, je sais pas pourquoi, c'est féminin la beauté. D'ailleurs, c'est féminin. Et elle était comme ça, le genou sur la margelle et tout, enfin, les cheveux en or et tout. Enfin, bon, bref, je suis tombé fou amoureux et à partir de là, j'ai voulu être un conquistador, j'ai voulu être un héros et je raconte cette histoire magnifique que j'ai voulu faire Paris-Marseille avec mon cheval comme John Wayne. Comme John Wayne, et donc j'ai pris mon vélo Solex pour faire ce qui est un petit peu, voilà. Et après, je me suis, quand elle m'a reçu, elle dit, mais tu es fada, voilà. J'ai adoré ce fada, et tu es brave. Et brave en marseillais, c'était magnifique aussi. Mais moi, voilà. Et si vous voulez, cette histoire m'a beaucoup marqué. Qui plus est, parce que il y a à peine 2-3 ans, j'ai reçu une lettre anonyme, enfin si signée d'Annette, mais sans adresse, sans aucune possibilité de la retrouver, et pour me témoigner que ça avait été une immense et très belle histoire, mais paf, je pouvais pas la retrouver. Et là, il y avait comme le tragique du temps qui passe et en même temps l'acceptation. du temps qui est passé. Voilà, ça c'était très très beau.
Ce moment fait penser à une chanson de Georges Brassens qui s'intitule « Les passantes ». J'aimerais lire,
ah bah oui.
J'aimerais lire ce moment où vous parlez d'Annette, où donc vous êtes jeune comédien à Paris, et elle est mariée avec deux enfants et vit à Marseille. « De Paris, je rejoindrai la Canebière et enlèverai ma dulcinée. Je prépare mon vélo Solex pour une chevauchée historique. John Wayne, je le jure, n'a jamais eu autant mal aux fesses. 15 jours durant, je sillonne les routes de France à l'allure d'un char à bœufs et en pédalant sur les côtes. J'arrive, raide, meurtri, hagard devant ma princesse. M'agenouiller m'est impossible. J'ai la fièvre, faim et soif. Je ne suis pas un héros mais un rescapé, pire, un bon à rien. Annette ne peut pas me prendre dans ses bras au risque de me casser. Un bain chaud et son rire réparent mon corps raidi. » Qui va là ? Elle s'appelle Olivia Dean. Olivia Dean, donc Dive, c'est le titre. Jacques Weber est dans Totemic jusqu'à 10h.
France Inter, Totemic, Rebecca Manzoni.
L'une des voix que vous vouliez entendre, Jacques Weber, c'est celle-ci.
J'ai vécu seul.
Gérard Philippe.
Sans personne avec qui parler véritablement.
Qui lit ici Le Petit Prince.
Jusqu'à une panne dans le désert du Sahara il y a 6 ans. Quelque chose s'était cassé dans mon moteur, et comme je n'avais avec moi ni mécanicien ni passager, je me préparais à essayer de réussir tout seul une réparation difficile. C'était pour moi une question de vie ou de mort. J'avais à peine de l'eau à boire pour 8 jours. Le premier soir, je me suis donc endormi sur le sable, à 1000 milles de toute terre habitée. J'étais bien plus isolé qu'un naufragé sur un radeau au milieu de l'océan. Alors vous imaginez ma surprise au lever du jour, quand une drôle de petite voix m'a réveillée.
S'il vous plaît, dessine-moi un mouton.
Gérard Philippe, choisi par vous, Jacques Weber.
Oui, vous avez entendu ce chant à peine perceptible qu'il y a derrière sa diction. C'est quelque chose d'infiniment tendre, enfin d'infiniment humain. Et non, moi j'ai choisi aussi Gérard Philipe car il a été décisif dans ma vie puisque ma maman, comme toutes les mamans de France et de Navarre, était folle amoureuse de Gérard Philipe. Enfin, tout le monde l'adorait, c'était un ange qui passait sur une époque. Et j'ai assisté, c'était France Inter, je crois, enfin ça s'appelait pas comme ça à l'époque, c'était la RTF. Et d'un seul coup, il y a eu un flash d'information, mesdames, messieurs, Gérard Philipe n'est plus. Et ma maman s'est écroulée en larmes. Et donc la conjonction entre l'écroulement en larmes de ma maman, les images que j'avais de Fanfan la Tulipe et les quelques enregistrements qu'il y avait dans des gros disques 33 tours, percés jusque au fond du cœur, d'une atteinte imprévue aussi bien que mortelle, misérable vengeur, avec tout ça me bouleversait et a vraiment participé à ce qu'on peut appeler la naissance d'une vocation.
Voilà. La naissance d'une vocation qui est aussi liée avec à un rêve d'enfant qui était celui d'interpréter Cyrano, qu'on a déjà un peu évoqué.
Oui, ça, de toute façon, mais je me demande quel est l'enfant qui n'a pas eu à un moment le rêve d'être Cyrano ou d'interpréter Cyrano. C'est incroyablement fréquent chez les acteurs, parce que c'est vrai que c'est un rôle, c'est le E.T. du théâtre classique. Enfin,
Pourquoi vous dites ça?
Ben parce que c'est tellement monumentalement en équilibre et ça répond tellement bien à une vocation populaire et grand public. C'est en ce sens-là que ça a du génie d'ailleurs. Ça n'est pas une œuvre aussi importante et fondatrice que Hamlet, mais c'est une œuvre que l'on doit totalement respecter parce que elle touche tout le monde, totalement. Et en plus, quand vous la lisez plus à fond, plus derrière le panache ou l'esprit français dont je n'ai que foutre, parce que ça veut rien dire l'esprit français, c'est une invention totalement stupide, je trouve qu'il y a derrière quelque chose de tellement contradictoire comme dans tous les grands personnages. Cet homme qui est contre toute forme de concession fait la concession suprême en proposant un pacte littéralement faustien avec Christian, puisqu'il y a l'échange de la beauté et de l'esprit.
Mais alors, ce rôle-là est notamment à l'origine de votre vocation, et il est important dans votre vie au point que vous lui avez consacré un livre. D'ailleurs, vous l'avez joué 500 fois à Mogador, oui, au milieu des années 80. Enfin, vous l'avez interprété plusieurs fois. Vous avez incarné De Guiche dans le film de Rapneau. Et le livre que vous lui avez consacré s'intitule « Cyrano, ma vie dans la sienne ».
Très beau titre que Jean-Marc Roberts a trouvé.
Éditeur. Qui fut éditeur.
Saluons-le, qui était un grand monsieur de l'édition. Oui.
Et dans ce livre, vous écrivez notamment « Cyrano est passé dans ma vie. Il m'a valu la reconnaissance, la perte de la voix, qu'on a déjà évoqué, et la dépression ». Et Cyrano, au fond, c'est un personnage qui existe par son mensonge, comme vous le disiez.
Mais exactement, mais je crois que vous avez tout dit, tout repose sur le mensonge. Et l'amour le plus passionné, celui qui bouleverse tellement les gens, est un énorme mensonge, est une énorme usurpation. Et en plus de ça, Cyrano se plaint sur lui-même au cinquième acte, mais ignore complètement le drame de Roxane. C'est quand même très très troublant tout ça, franchement. Mais c'est ce qui fait peut-être, c'est cette contradiction très mystérieuse qui doit toucher les gens. C'est aussi l'absence absolue de toute forme de sexualité. C'est un terrain purement langagier, c'est séducteur et sensuel, quoi. Mais il n'y a pas où la sexualité est plutôt représentée par... La bouffe est dans tous les actes, vous avez remarqué. Alors, Ragnou arrive pour consoler tout le monde. Tenez, voilà le saucisson de Arles, voilà ceci, voilà cela. C'est un peu le, comment dirais-je, le remplacement, oui, c'est ça.
Alors, ce matin, vous avez choisi de nous lire un texte contemporain. Oui. Un texte qui est apparu en 2019, écrit par Joseph Pontus. C'est un extrait de « À la ligne, feuillet d'usine ». Joseph Pontus, jeune auteur décédé en 2021, à l'âge de 42 ans. Pourquoi vous avez choisi ce texte pour ce matin?
Exactement, c'est un texte qui me semble important de dire, car c'est un homme qui parle de ce qu'il connaît, des terrains dans lesquels il a vécu. Il est comme Florence Aubenas, quand elle parle de Ouistreham, elle sait de quoi elle parle, était. Alors même qu'à l'heure actuelle, on nous parle de la pénibilité, on fait des commentaires énormes sur les retraites, les gens, la pénibilité au travail, et tous sont des commentaires mais d'un cynisme et d'un mensonge absolument effarant. Je ne supporte plus le mensonge que j'entends à longueur de journée perpétué par nos politiques et nos gouvernants. C'est une honte absolue. C'est dégueulasse. C'est horrible. Ça y est, je vais m'emporter. J'ai juré de rester calme. C'est répugnant. Voilà. C'est répugnant. Alors, je le lis. C'est donc un homme qui ne trouvait plus de boulot alors que c'était un type très, très lettré. Par amour, il a suivi sa femme. Je crois que c'est en Bretagne, et d'un seul coup, il s'est retrouvé sans boulot. Donc, il est obligé d'aller à Pôle emploi, il se tape les chaînes de poissons, les chaînes de viande, etc. Et il nous raconte ça dans une espèce de cri, presque versifié, d'ailleurs, c'est tout à fait étonnant. Nettoyeur de tranchées, nettoyeur d'abattoirs, c'est presque tout pareil. Je me fais l'effet d'être à la guerre. Les lambeaux, les morceaux, l'équipement qu'il faut avoir, le sang. Je nettoie les déchets de tout ce qui ne sert à rien dans le bœuf et qui est jeté un de mes étages au-dessus dans les énormes tuyaux, dans d'énormes cuves que je nettoie avec mon jet haute pression. Autant de cuves que de déchets, des morceaux que je ne parviens pas à identifier. Les mâchoires, les cornes, les pieds avant, les pieds arrière. Gaffe à ne pas être sous le tuyau quand des sabots tombent. Les cornes sont comme autant de gros osselets qui s'éparpillent sur le sol de l'usine. Et les mamelles bordel, sortent de tout petits ballons de rugby gonflés, encore tièdes, du corps de l'animal juste tué. Parfois, elles éclatent quand elles tombent par terre. Un liquide blanchâtre en sort. Ça pue la mer, la mort, la peur de la bête abattue. C'est encore tiède. La merde, je la nettoie aussi dans un atelier dédié. J'imagine qu'au-dessus, c'est ce qu'on appelle le piège. Là où les bêtes sont conduites et attendent juste avant d'y passer. Elles ont peur et elles sentent la mort qui approche. Elles chient, c'est normal. Je nettoie, c'est mon taf. Le taf que j'écoutais avec horreur à la pause la semaine dernière. Je suis très 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 touché par ça parce que on est au cœur même de ce rapport physique et quotidien extrêmement dur, terrible, et sur lequel on se nourrit, sur lequel on vit. On vit sur la pénibilité de milliers et de milliers de gens. Et on oublie ça. On oublie complètement et on nous entraîne à l'oublier avec des discours plus ou moins théoriques qui sont absolument effrayants.
Je rappelle le titre de ce livre donc.
La ligne, oui, à la ligne.
À la ligne, feuillet d'usine de Joseph Pontus. Merci beaucoup Jacques Weber d'être venu dans Totemix.
Ah, c'est déjà fini? Ah, mais j'avais encore tellement de choses à vous dire.
Ah, bah, pourra revenir.
Bah oui, bah, je reviens alors quand vous voulez.
Vous jouez donc Weber à vif, spectacle littéraire et musical, mm-hmm, avec Pascal Contet et Greg Zlap à la Scala Paris du 11 au 26 avril. Vous serez aussi à la Scala Provence du 7 au 29 juillet. Et votre livre, On ne dit jamais assez aux gens qu'on les aime, apparu aux éditions de l'Observatoire.
Merci beaucoup.
Merci à vous. Le prochain enregistrement de Totemic en public, c'est jeudi à 18h, comme d'habitude, avec le comédien, dramaturge et metteur en scène Alexis Michalik. Pour les inscriptions, c'est toujours pareil, c'est-à-dire sur le site maisondelaradioetdelamusique.fr, maisondelaradioetdelamusique.fr. Pour les inscriptions,